21h passées de quelques secondes, bonsoir à toutes et à tous. Voici aujourd'hui sur Radion le 275e numéro de Wagon Livre. C'est depuis novembre 2010, vous le savez, votre rendez-vous littéraire hebdomadaire. C'est chaque mercredi et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Ce soir, nous vous proposons l'intervention de l'écrivain et poète Laurent Grisel que nous avons enregistré à la Maison Jules Roy à Vézelay le 9 septembre dernier. Laurent Grisel habite dans l'Yonne et il vient de faire paraître le tome 2 de son journal de la crise, continuant de s'intéresser cette fois à la conjonction de trois crises financières, écologiques et géopolitiques. Laurent Grisel est né en 1952 à Boulogne-Billancourt. Pendant près de 6 ans, il a été ouvrier en banlieue parisienne, puis dans le Dunkerquois. Et durant 9 ans, il a été permanent national d'une association de consommateurs et d'usagers. De 1992 à 2001, il est conseil en environnement à Ecobilan SA. Il est en retraite depuis peu et il se consacre maintenant essentiellement à l'écriture de poésie, d'esthétique ou d'ouvrages sur l'environnement. Avant de présenter son dernier livre, Journal de la crise 2007 d'avant et d'après, disponible en librairie aux éditions publi.net, vous verrez que Laurent Grisel, dans cet entretien qui avait lieu en public et que nous avons enregistré, est interrogé par Christian Limousin. Et Laurent Grisel revient notamment sur la résidence d'écriture qu'il a connue en août 2015 à Edenkoben, c'est en Rhénanie-Palatinat, en Allemagne, une étape décisive dans la mise au point de ce journal de la crise 2007. Laurent Grisel.
En fait, comme son nom l'indique, c'est journal de la crise de 2006, 2007, 2008, d'avant et d'après.
5 volumes.
Prévus. Donc, il y a 5 volumes. Et l'été dernier, ceci était déjà publié. J'avais évidemment, comme le titre l'indique, c'est un journal, donc c'est noté au jour le jour. Le journal, il existe déjà. Mais évidemment, il faut que ce soit lisible par quelqu'un d'autre que moi. C'est-à-dire, quand on prend son journal, enfin, c'est pas très intéressant pour n'importe qui d'autre. C'est juste des notations, des mots, des citations. Et il faut, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, retrouver quelles étaient les pensées de ce moment-là. Donc, c'est une écriture, c'est un journal qui est reconstitué. Et évidemment, quand j'ai fini 2006, j'ai dit, bon, maintenant, je vais faire 2007. J'ai déjà tout le matériau. En quelques mois, ça va être fait. Manque de chance, l'année 2007 a été très importante pour moi. Il s'est passé énormément de choses. C'est celle pour laquelle j'ai réuni le plus de matériaux, et disons, pour faire simple, que j'en avais beaucoup trop. Donc, vous savez qu'il y a différents types de sculptures, par exemple par soudure, ou bien par addition, on monte des éléments les uns sur les autres, et puis aussi la sculpture par soustraction. Donc ça, le volume 2007, comme 2006 d'ailleurs, il est composé par soustraction, j'enlève de la matière. Et quand j'ai repris 2007, j'ai énormément travaillé, j'ai reconstitué des choses, j'ai identifié un certain nombre de ce que j'appelle des fils, c'est-à-dire des phénomènes qui sont suivis d'un bout de l'année à un autre, voire même qui existaient déjà en 2006 et puis qui existent encore en 2007, peut-être encore en 2008. Par exemple, en 2006, il y a un député... aujourd'hui non inscrit, à l'époque c'était un camarade de Bérou, Jean Lassalle, qui a fait une grève de la faim en pleine Assemblée nationale pour obtenir que une usine de Vallée d'Aspe, d'un producteur de poudre de couleur pour les carrosseries automobiles Toyal, donc quelque chose de la chimie, métallurgie extrêmement spéciale, ne soit pas fermée. Et donc, on suit son histoire en 2006 et on la retrouve en 2007. Donc ça, c'est ce que j'appelle un fil. C'est des choses qui viennent comme ça. Donc j'avais déjà bien travaillé sur ces fils-là. Il y a aussi des nœuds. Un nœud, c'est représenté par le portrait d'un personnage dans lequel converge tout un ensemble de dimensions du journal, et ainsi de suite. Donc le travail était très avancé, mais malgré tout, pour ceux qui font écrire des articles de presse ou écrire des livres, pour qu'ils se rendent compte un petit peu de la dimension du problème que j'avais à résoudre, j'avais un manuscrit de 2 millions de signes. Et donc il fallait arriver entre à peu près 400 000 et 450 000 signes. Et je n'y arrivais pas. Et donc j'ai eu une occasion, là j'ai vu qu'il y avait une demande de candidature. J'ai dit, bah, si je l'ai, je vais avoir un mois. Là où nous habitons, à Grappoux, c'est déjà un lieu de résidence d'écriture, pratiquement. Mais là, je serai absolument insupportable pendant un mois. Je vais ne faire que ça. Et par chance, donc, j'ai été retenu. Je suis arrivé là-bas. Je me suis enfermé dans ma cellule. En fait, un très bel appartement de 3 pièces, beaucoup trop grand. Une salle de bain gigantesque. Et dans le coin de maison dans lequel j'étais, il y avait d'un côté les vignes et de l'autre côté un grand jardin. Donc, Eden Coben, je vous recommande, donc, mesdames et messieurs les écrivains. On est reçu par Hans Thiel, qui est parfaitement francophone, qui traduit du français à l'allemand. Et là, j'ai pu m'attaquer à cette montagne. Je ne suis pas arrivé aux 400 000 signes comme je voulais le faire, mais j'ai quand même réduit de plus de moitié cette matière. Et donc c'est comme si j'étais à un mur, et j'ai percé ce mur à Eden Coben. Et donc après ça, bah, effectivement, j'ai pu reprendre le travail des dimensions plus normales. Voilà ce qui s'est passé à cet endroit-là.
Laurent Grisel, à l'instant, dans votre émission littéraire, pour évoquer son journal de la crise 2007, crise d'avant et d'après, ouvrage paru fin novembre dernier et dans lequel il nous fait entendre le bruit des faillites et des férocités qui annoncent et préparent ce que les médias appelleront la crise de 2008. On se retrouve dans une poignée de minutes, le temps de marquer un premier intermède musical. Très bonne soirée sur Radion, nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
Aînés n'y seront plus, nous y trouverons. Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
La soirée continue sur votre radio locale avec ce soir l'évocation du dernier livre de Laurent Grisel intitulé « Journal de la crise 2007 d'avant et d'après ». C'est un ouvrage disponible en librairie aux éditions publi.net. Il est sorti fin novembre dernier. C'est un journal très documenté, toujours limpide malgré la complexité des mécanismes que l'auteur décrypte. Laurent Grisel a précédemment parlé des matériaux qui ont servi à construire, à rédiger ce journal. Alors justement, quels sont donc ces matériaux ? Réponse dans la bouche de Laurent Grisel.
En fait, faut revenir à 2006, début janvier 2006, je crois, le 5 janvier, je prends la résolution de noter ce que je saisis, mes questions, mes interrogations. Dans ces années-là, vous vous souvenez peut-être pas, mais bon, c'était la fin de règne de Chirac. Il y a le Sarkozy qui, profitant de la crise, de la contestation du contrat première embauche mis en place par l'aristocrate, je ne sais plus qui, de Villepin. Et donc il se sert de la chute de Villepin pour, comme marchepied pour monter au pouvoir. Donc les élections ont lieu en 2007. Il y avait déjà des quantités de messages qui arrivaient de tous les côtés. On sentait un durcissement des conditions morales, économiques, politiques. Et je me demandais ce qui se passait. Des pétitions, ça commençait déjà à fleurir dans tous les sens. Et donc dans cette confusion, je me dis, c'est confus, on va procéder de manière en quelque sorte expérimentale, on va noter ce qui se passe, et puis peu à peu, on va bien voir. Et donc ce journal de 2007, 2006, 2007 et 2008, c'est un journal d'enquête. Et donc mon enquête, il y a la correspondance, il y a des listes de discussions. Par exemple, je suis abonné à la liste toujours du GISTI, qui est le groupe d'information de soutien aux travailleurs immigrés, donc qui est une bonne façon de se tenir au courant de tout ce qui est question d'immigration sur le plan législatif, sur le plan des événements. Également Réseau Éducation sans frontières, qui est déjà très actif à ce moment-là, qui défend les enfants scolarisés.
Oui, on voit l'émergence de tout ça d'ailleurs, ouais. Et l'inscription dans la durée.
Et puis, il n'y a pas que ça. Par exemple,
il y a les livres, les blogs.
Il y a des livres. Donc, en fait, les livres, c'est quand une question commence à être un peu mûre, j'ai besoin d'aller plus à fond, je ne peux pas me contenter des blogs. Il y a des documents techniques. Par exemple, je fais allusion à un moment donné à une note de M. Christian Morrison pour l'OCDE sur la faisabilité politique des politiques d'ajustement. J'aime la technique, et par exemple dans 2007, à un moment donné, je lis toute une série d'articles, en fait un gros article qui paraît dans Business Week, si je me souviens bien, et dans lequel on explique que le calcul du PIB aux États-Unis est faux. Ça, c'est très intéressant. Et donc, je m'aperçois qu'en fait, il s'appuie sur les travaux d'une chercheuse, Nicole Hausmann. Et donc, la semaine d'après, je lis l'article de Nicole Hausmann. Donc, les lecteurs de 2007 liront avec moi l'article de Nicole Hausmann.
Voilà, c'est important de comprendre ce cheminement. Alors, cheminement dans lequel tu joues un peu le rôle du candide, disant souvent « j'y comprends rien ». Mais surtout, je veux comprendre. Et ce qui force le respect, c'est cette sorte de ténacité que tu mets à entreprendre et à rassembler et à lier toutes les facettes de la crise. Hein? Oui. Tu peux expliquer ça, cette volonté de tout lier, de tout relier?
Alors, ça, c'est quasiment une question philosophique. C'est-à-dire que je pense qu'une... Donc je vais ramasser ça en quelques formules. Donc je pense, ma conviction, c'est que une des raisons des différents malheurs du monde, c'est la séparation de l'être en différentes parties. Et par exemple, on a beaucoup de problèmes avec les économistes parce qu'ils sont seulement économistes, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous pouvez appliquer ça à n'importe quelle corporation. Et réciproquement, les moments de joie, de bonheur, de grandeur humaine et inhumaine, ce sont les moments où toutes les différentes parties de l'être sont rassemblées en une seule. Ce serait en quelque sorte ma définition du sentiment de beauté, par exemple. C'est aussi ce qui se passe dans une intuition. Tout d'un coup, l'être est entier, tout est rassemblé en un seul instant. Et ce qui se passe aussi dans un coup de colère, par exemple. Là, ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait magnifique. Et donc c'est, ça, c'est vraiment une conviction. Alors, en dehors de cette conviction personnelle qui m'amène dans mes différents écrits à rassembler des éléments et à fondre et à relier des éléments qui sont réputés incompatibles ou hétéroclites.
Ou éparpillés, en tout cas.
Ou éparpillés, en tout cas, donnés de façon, oui, c'est ça, comme les morceaux d'un puzzle qu'il faudrait rassembler. C'est vrai dans la poésie, c'est vrai aussi dans les proses. En dehors de ça, objectivement, d'abord, le mot de crise n'est pas du tout adapté, parce qu'une crise, bon, ça va, ça vient, puis on s'en sort, c'est pas du tout la situation. C'est plutôt un effondrement, c'est un changement de civilisation. Eh bien, l'époque historique dans laquelle on est, toutes les dimensions sont présentes. C'est-à-dire, toutes les dimensions sont mises en cause, sont en bouleversement, sont en recherche. Donc, il y a évidemment la crise, on l'entend sous l'angle économique, c'est aussi une crise politique, de la représentation, de la façon de concevoir la démocratie, le désordre, l'invention. C'est aussi une crise morale. Je ne m'étends pas trop, je suis prêt à faire un laïus là-dessus. C'est aussi une crise d'ordre philosophique. Je parlais, même métaphysique, je parlais des chiffres du PIB qui sont faux, des leitmotifs dans 2006, mais plus encore dans 2007, c'est les chiffres sont faux. Ce qui est en question, c'est notre rapport avec la réalité. Qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on en connaît? Et c'est une crise psychologique, parce que les psychologies sont très fortement bouleversées. La temporalité, le temps vécu tout à fait comprimé. Donc, c'est un changement à de multiples dimensions. Et donc, dans le journal, je prends un fil, je prends un autre, je ne lâche pas, et puis peu à peu, ils sont noués.
Voilà, c'est le nouage. Le nouage, ce terme conviendrait assez bien. Oui, tu as oublié dans ce que tu citais la crise écologique, auquel tu accordes pas mal d'importance, avec déjà le problème des abeilles, de l'appauvrissement des sols, etc. etc. Mais tu as parlé du bonheur, effectivement, lié aux choses simples. Tu pourrais lire peut-être le passage sur le Beaujolais.
Oui.
Donc là, il y a des pauses dans ce journal, pourrait-on dire.
Là, c'était en même temps un sentiment de bonheur et de désespoir le plus complet. Enfin, les deux sentiments sont juxtaposés et mêlés. Et donc, on était le vendredi 28 septembre 2007, donc je commençais déjà, à avoir pigé un certain nombre de choses. Je suis invité par un ami à sa fête d'anniversaire. Il fêtait ses 50 ans. Voyage dans l'économie dite réelle. En route vers la fête d'anniversaire de M, dans une maison de pierre dorée du Beaujolais. Sur la place du village d'Ouin, je trouve une boulangerie fermée, mais sans rideau baissé ni vélo posé contre lui. Je n'avais jamais vu ni imaginé le Beaujolais, stupéfait par la beauté du paysage, très humain, des milliards d'heures de travail, des siècles de travail maintenu et entretenu et poursuivi. Une beauté humaine. Et si la définition de la beauté, c'est sans distinction le sentiment, la sensation, l'intelligence, en même temps, unis et complets d'être confrontés à ce qui est plus grand que nous et sans nous, alors la beauté du travail humain accumulé en proportion insaisissable et celui-ci confronté aux pentes et aux éléments. dimanche 30 septembre 2007. Lors de la fête, hier, je parle à M de ce qui se passe, dont personne ne parle. Il me répond par des généralités justes, mais c'est le moment historique exact, à la semaine, à la journée, à l'heure près, qui m'intéresse, qui me paraît vital. Et nous ne sommes pas dans un moment général. C'est historique, précisément. Je ne sais pas comment le faire comprendre. Je me sens idiot. Je suis partagé entre l'heure douce et l'heure sombre. Je goûte pleinement les deux. Toujours aussi mal à l'aise avec l'humain en ombre, je ne savais où me mettre sans déranger. Et fuit brusquement la musique et la danse à 22h. Le matin, lumière et paysage splendide. Je prends un café au bistrot de Saint-Laurent-Douin. Beaucoup de monde, vers 9h30 tout le monde parti, je suppose, pour aller travailler. J'achète Le Progrès, édition de ce matin. Entretien avec Emmanuel Todd, dont le dernier livre, en collaboration avec Youssef Courbadj, Le rendez-vous des civilisations, fait grand bruit. Mais on ne voit ni n'entend jamais Youssef Courbadj. Todd, il faut aider le Pakistan, l'Iran, il se démocratise. Retour dans la journée par les petites montagnes et les vallées du Beaujolais, du Brionnais, du Charolais et du Morvan. La maison est paisible. Neko, notre chat, va et vient par la chatière comme il veut, avec résolution.
Mountain, I have run.
C'est donc le tome 2 du Journal de la crise qui est consacré à l'année 2007, Journal de la crise 2007 d'avant et d'après, sous la plume de Laurent Grisel, disponible aux éditions publi.net. Dans le tome 1 qui était consacré à l'année 2006, ce qui dominait de la part de l'auteur, c'était l'étonnement, c'était surtout la découverte par à-coup d'un futur proche déjà en route et monstrueux. En fait, il faut bien l'admettre, avec plaisir et bonheur, le journal de Laurent Grisel, c'est avant tout le journal d'un écrivain et poète, et non celui d'un économiste. Alors quels sont donc les problèmes rencontrés? Où est le défi littéraire, Laurent Grisel?
Enfin, il y a plusieurs défis littéraires, mais disons que... D'abord, il faut comprendre que le journal est un genre littéraire. Et c'est un genre littéraire qui a des propriétés vraiment tout à fait intéressantes. C'est-à-dire que on est dans le moment présent, mais comme c'est noté pour l'auteur et comme c'est lu pour le lecteur, il y a une épaisseur de temps. Et donc, on a le temps, par exemple, de changer d'avis. De se rendre compte que, bon, non, c'est pas tout à fait ça. De reformuler les choses encore, d'une manière encore d'une autre. On a le temps aussi, comme ce sont des découpes dans le temps, il y a la simultanéité. C'est-à-dire, dans une même journée, justement, il peut y avoir ces différentes dimensions dont on parlait tout à l'heure. Économique, politique, psychologique, etc.
Bien sûr.
Et donc, ça, sur le plan littéraire, c'est très intéressant parce que ce sont des effets d'entrechoc, d'écho. Pour moi, c'est vraiment la timbale, quoi. La timbale. Et puis, les choses se répètent, et donc il y a le bruit du tambour qui revient. Par exemple, à un moment donné, je repère un site qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle ML Implode O-Meter, et dans lequel sont notées au jour le jour les faillites. Les faillites d'établissements bancaires, d'établissements de crédit aux États-Unis. C'est un véritable travail d'intérêt public. Et donc, dans le genre, je commence de noter. Et donc, ça revient, souvent d'ailleurs le lundi, je note les différentes faillites qu'il y a eu. Or, ça, c'est...
Pour démarrer la semaine.
Ça, c'est le tambour. C'est un rythme assez régulier. Et donc, c'est littéraire au sens où les sons, le rythme, la composition sont importants. C'est-à-dire que j'ai écrit, j'ai retravaillé, j'ai enlevé des éléments à l'oreille.
Et tu fais des chapitres, ce qui dans un journal, en principe, n'existe pas.
Et les chapitres, ce sont les semaines. Chaque semaine est un chapitre. Alors,
Avec un titre.
Avec un titre. Le titre étant lui-même...
Très travaillé.
Le titre, c'est un extrait du texte. C'est-à-dire, quand on est dans le texte, on retrouve le titre. Alors, je peux vous donner quelques titres. Jaurès enterré. Si vous n'éprouvez pas ce sourire, faites-le en faux. Comment ils détruisent? Ils sont, nous ne sommes pas. Tu as tué combien de fantômes aujourd'hui? Dans cette guerre, il faut du temps. Le nouveau mur de l'argent. Je vais un peu plus loin, un peu plus vite. Gagner du temps, prolonger l'euphorie. Je connais très bien votre patron. Abattre cette puissance, il faut. Il n'y a pas de responsabilité illimitée. Baiser de paix. Ils vont nous écraser. PIB fantôme. Ce qui marche dans le capitalisme, c'est le communisme. On s'approche d'un crack, une mathématisation du puritanisme. Fabriquer des documents pour une réalité, puis en livrer une autre. Mieux qu'une relation de cause à effet, une étroite imbrication. Je ne crois pas que cette grève aboutira à une victoire. Une tente de Bédouin. Hôtel Marigny, si vous
savez.
L'argent ne circule plus. L'explosion d'un monde dans l'autre. Ça, c'est le dernier chapitre.
Alors justement, quels sont les liens du journal avec ta poésie? Parce que, bon, écrivain, disait le texte que j'ai lu tout à l'heure, mais tu es essentiellement poète.
Oui, ça, je préfère.
On l'entend bien d'ailleurs.
Je préfère la poésie. Mes poèmes sont écrits beaucoup plus rapidement que mes proses. Donc, oui, en fait, d'ailleurs, les lecteurs trouveront dans 2006, dans 2007 et 2008, j'ai repris un journal d'écriture, le journal d'écriture d'un poème qui s'appelle Un hymne à la paix 16 fois. Et je pense que le lecteur le verra plus en 2007. Par exemple, il y a une des questions d'ordre moral et psychologique, politique aussi, même juridique, qui est celle de la responsabilité. Donc, quand quelqu'un, de manière délibérée, organisée, emmène des centaines de milliers de ménages à la faillite, donc ça c'est le cas de Mozilla, le patron de Countrywide. Donc il y a des techniques de vente qui poussent les gens à la faillite, hein. Donc il a une responsabilité. Donc, mais il y a d'autres portraits de salauds plus ou moins sympathiques dans 2007. Et donc je me pose la question, c'est quoi, comment il pense, à quoi il réfléchit, de quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'il est responsable ou pas responsable quelque part, enfin, c'est des questions super classiques. Et à un moment donné, je dis, il n'y a pas de responsabilité limitée. Et donc, cette formule, je l'introduis pratiquement, on le retrouve dans le journal, elle naît dans l'écriture du journal de la crise, et on la retrouve dans le journal d'écriture de l'hymne à la paix, elle est reprise dans l'hymne à la paix. C'est-à-dire qu'en fait, cet hymne à la paix qui est un poème pour quatre voix, eh bien, il est les expériences, l'enquête que je suis en train de faire nourrit la réflexion, me permet y compris des fois de créer des formules qui sont reprises dans les vers, dans des strophes de l'hymne. Et donc, ma poésie et ma prose sont en fait très entrelacées en fait.
Nous mettons ce soir en lumière le dernier ouvrage de Laurent Grisel intitulé « Journal de la crise de 2006, 2007, 2008, d'avant et d'après » aux éditions Publi.net. Il s'agit du tome 2 consacré à l'année 2007. Nous marquons un petit détour en chanson et nous nous retrouvons bien sûr à bord de Wagon Livre dans quelques minutes pour la suite de notre rendez-vous. Très bonne soirée sur Radion 90.5 dans le département de l'Yonne et vous nous écoutez également aux quatre coins de France et de la Bourgogne sur radion.fr.
On partage plus de secrets, on ne partage plus nos joints. On se dit plus trop grand chose quand on se voit, on cibre plus les doigts et devant tout ce qui nous sépare. Sans plus rien qui répare au nom de tout ce qui nous sépare, sans l'ombre d'un espoir. Oh, 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 oh. Notre passé, c'est comme de la poussière qu'on souffle sur un meuble, des particules qui dansent dans le soleil. Disparaissent toutes seules quand je pense à tout ce qui nous sépare, sans plus rien qui répare au nom de tout ce qui nous sépare, comme deux ombres à l'écart. Wow, 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 wow. J'perds ma lumière intérieure, perdu mon petit phare. Ça éclairait tout mon sourire. Maintenant, je vis plus que dans le noir. Alors, c'est comme finir ces jours en prison. Ce qui vous fait tenir, c'est l'absence de raison et la distance qui sépare les fantômes de l'histoire.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Nous évoquons ce soir le dernier écrit de Laurent Grisel, disponible en librairie aux éditions Publi.net. L'ouvrage a pour titre « Journal de la crise de 2006, 2007, 2008, d'avant et d'après », consacré aux grands événements de l'année 2007, qui fut en France d'ailleurs une année d'élection présidentielle. C'est une année 2007 qui est étudiée à travers la conjonction de trois crises, crise financière, crise écologique, crise géopolitique. Et l'objet de ce journal, donc je le rappelle, c'est le deuxième tome qui vient de sortir fin novembre dernier, c'est la compréhension d'un monde en fusion. Ce texte est en l'occurrence un livre d'écrivain, de poète, assurément, mais également un geste politique et citoyen. Alors, est-ce que Laurent Grisel se considère comme un écrivain engagé ? Réponse de l'auteur, c'était à Vézelay, je le rappelle, à la Maison Jules Roy, le 9 septembre dernier.
Dans le sens vague, mou et général d'aujourd'hui, on va dire oui. Le problème, c'est que cet adjectif a été créé après-guerre. Grosso modo, à un moment où le Parti communiste français avait une espèce d'affluence intellectuelle considérable. Ça n'a pas duré, mais en tout cas, c'était l'époque. Et on a créé ce mot engagé pour essayer de regrouper, c'est ma vision d'histoire, regrouper sous une même étiquette des écrivains qui seraient eux aussi donc engagés, mais pas au service du parti, mais au service de la grande cause, des grandes causes humanistes. Et donc, cette histoire de politique d'après-guerre n'est plus du tout la même. Je ne suis pas engagé dans un parti, mais je prends parti pour des causes, oui. Dans les différents métiers que j'ai exercés, donc j'ai dirigé une section syndicale d'entreprise, et par exemple, comme conseil en environnement, j'ai dirigé une petite boîte de conseil, mais on était très engagé auprès de nos clients. J'ai écrit un poème qui s'appelle « Climat », qui a été lu plusieurs fois dans le cadre d'un mouvement qui s'appelle l'Alternativa, donc on peut dire que c'est un engagement auprès, à l'intérieur même d'un mouvement, mais je trouve que ce mot est trop étroit parce que c'est pas seulement tout ce que je viens de dire. Je pense que notre travail d'écrivain, d'inventeur de textes, c'est de créer des dispositifs mentaux, des dispositifs de langage qui donnent toute liberté au lecteur et qui permettent de rebattre les cartes de notre relation avec nous-mêmes, avec le monde humain et inhumain, c'est-à-dire minéral, chimique, etc. etc. Donc c'est la dimension politique qui est comprise dans Écrivain engagé est beaucoup trop étroite, et de plus elle correspond à toute une quantité de littérature que je déteste et contre laquelle j'écris.
C'est très clair. On lit pour terminer un passage.
Volontiers.
Donc jeudi 20 septembre 2007.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ah oui. 228.
Ah oui.
Et on n'ira peut-être pas jusqu'au bout.
Si.
Parmi
si.
Ceux qui expliquent que cette crise sera plus vaste que celle de 1929, Mostafa Belkayat prévoit un tsunami financier en 2007-2008. Il recommande d'acheter de l'or physique parce que le dollar va chuter, parce que les États-Unis sont trop endettés et que tous les pays veulent remplacer le dollar de leurs réserves par de l'or, etc. Il donne ce très beau portrait de lui-même, du spéculateur comme artiste zen.
La performance du spéculateur ne dépend jamais de ce qui se passe dans les marchés, mais de ce qu'il ressent au moment où il passe ses ordres et de son interprétation personnelle de ce qu'il voit sur les marchés. Le moyen le plus efficace de récolter de l'argent est d'en donner. On ne donne pas pour récolter, mais pour être en harmonie avec le flux financier et participer à sa circulation. Et lui ne nous oublie jamais. Quand on donne de l'argent, quelle que soit la somme, on lève les barrages intérieurs créés par la peur du manque et on laisse couler librement le courant de notre rivière d'abondance. Il en est exactement de même quand on accepte de recevoir et donc d'encaisser les profits offerts par le marché. La majorité des traders ne comprennent pas qu'ils devraient encaisser les petits profits qui se présentent, car ces derniers sont annonciateurs de profits encore plus conséquents. Pour avoir foi en cette étrange loi, il faut l'avoir expérimentée à maintes reprises. Un bon spéculateur est un homme ou une femme qui a l'humilité de reconnaître qu'il, elle, n'est qu'un pont, un simple lieu de passage. Et l'art de la spéculation consiste à juger des moments opportuns pour fusionner dans l'harmonie des rivières dont nous avons la charge avec les fleuves bouillonnants de l'univers financier.
Il ne faut pas hésiter entre telle analyse et telle autre. Il faut ne pas penser.
La première chose à laquelle on doit penser avant de commencer à trader, c'est justement de ne pas trop penser. Il faut libérer votre esprit. C'est très difficile, je dois vous l'avouer. Il s'agit cependant d'une des qualités clés de l'excellence dans ce domaine.
Prenons la décision au dernier moment. L'univers financier nous le rendra. C'est exactement ce que nous enseignent les maîtres du pinceau et du tir à l'arc.
Vous voilà assis devant votre écran. Votre position est confortable et paisible. Vous voyez défiler les courbes du dollar, du pétrole, des indices boursiers. Il y a des pensées qui surgissent, des pensées agressives, des pensées heureuses, des pensées troublantes, des pensées agréables, mais vous ne vous en occupez pas. Vous ne vous raidissez pas, vous ne réagissez pas, vous n'y accordez aucune attention. Vous êtes assis tout simplement et vous regardez. La forme de la spéculation la plus fondamentale est pure attention. Observez sans s'accrocher, sans s'attacher, sans juger. Observez le va-et-vient des cotations. Écoutez les émotions, les inquiétudes et le dialogue qu'il y a derrière ces chiffres, ces graphiques.
C'est sa définition du présent.
Là, vous êtes en plein dans le présent. Avec la pratique, vous pourrez arriver à avoir accès à une partie du savoir universel. Et la spéculation n'aura plus aucune importance, puisque vous serez dans une autre dimension. Gardez l'humilité de vous en tenir au rôle de témoin de ce qui se passe sur les marchés. Ne tombez pas dans cette tentation de certains grands traders qui sont plus préoccupés d'être acteurs des marchés que de faire des profits.
Il nous donne généreusement son secret.
Cette façon de trader m'est personnelle. En l'utilisant régulièrement, vous apprendrez à moins penser et par conséquent à ressentir davantage.
Le présent l'emporte sur tout. Ne pas s'y tenir explique les mauvaises décisions. Notre cerveau est bien plus rapide que toutes nos sous-pesées, hésitations, prévisions.
Voilà un trader qui s'est porté vendeur à découvert sur le blé. Et supposons que le temps se gâte et brusquement le blé commence à monter. Cela veut-il dire que ce trader s'est trompé? Bien sûr que non. Il a simplement pris une décision que le marché n'a pas acceptée. Qu'à cela ne tienne, il encaisse le plus tôt possible sa perte et se repositionne dans le sens du train.
On dit que les spéculateurs sont moutonniers, on oublie qu'il y a une mystique du mouton. Dans ce présent, le marché du blé est un marché, il n'y a pas de blé. Pas de paysans, pas de fin, pas de cause, c'est le passé, pas de conséquences, c'est le futur. Pourtant, il suffit que la spéculation sur le riz parte à la hausse pour que des gens, ceux qui l'achètent pour vivre jusqu'aux prochaines récoltes, crèvent de faim. Le vrai professionnel est sans cause et sans conséquence. Il est pur acte dans le flux. Il est sans volonté contraire au flux. Il tue. Il est un voyou armé et qui tire en même temps que d'autres innombrables criminels, et il n'entend pas la détonation sans nombre, sans dimension. il est calme, droit, concentré. Il fait le geste décisif avant même de savoir qu'il le fait.
Je rappelle que les propos de Laurent Grisel que vous avez pu entendre ce soir, avec parfois les interventions de Christian Limousin qui menait cette discussion, ont été enregistrés le 9 septembre dernier à la Maison Jules Roy à Vézelay. Je voudrais vous lire un des chapitres du dernier ouvrage de Laurent Grisel. C'est le chapitre intitulé « Je connais très bien votre patron ». Mardi 24 avril 2007, 9h. Reçu, comment se fait-il ? Un PDF qui circule en tous sens, le dossier du magazine Marianne. Le vrai Sarkozy, ce que les grands médias n'osent pas ou ne veulent pas dévoiler. Portrait d'un type abominable, sans scrupules, brutal, un caïd, un chef de bande. Un type autorisé. Il faut revenir au sentiment d'impunité, à ce qui les autorise, lui et ses semblables, à se comporter brutalement. Il y a une impatience. Il y en a assez d'attendre, de tergiverser. Foutez en l'air ces allocations, ces retraites, tout cet argent devrait nous revenir, nous saurons quoi en faire. Mais oui, Nicolas, ils te poussent, ils te soutiendront. Le point de départ de ce dossier, il n'y a pas eu de réaction aux déclarations de ce Sarkozy à Michel Onfray sur la génétique à l'origine de la pédophilie, de tous les crimes ou maladies, stupéfiante rémanence de l'idéologie sociobiologique de l'extrême droite païenne. Pas de réaction non plus à l'annonce, en cas de victoire, de la création d'un ministère de l'intégration et de l'identité nationale. Donc les médias ont peur. La clé est dans ce propos rapporté. Sarkozy aime répéter aux journalistes qui l'accompagnent « Je connais très bien votre patron ». Je sais ce qui se passe dans votre rédaction. Ou encore, une fois qu'il n'est pas reçu comme il faut à son goût de déjà despote par France 3, la télé des régions, il leur dit « Si je suis élu, je vous ferai tous virer ». En somme, obéissant au patron des directeurs de rédaction et étant autorisé à agir par ces mêmes patrons, il surplombe lui aussi ses directeurs de rédaction qui devancent ses désirs pour ne pas être débarqués par leur patron commun. Il peut agir avec la même impudence qu'eux. Ensuite, les rédacteurs du dossier se livrent à une rhétorique politicienne. Il est de droite, et alors ? Il est partisan des politiques économiques ultralibérales ? Et alors ? Ça existe, il faut bien que ce soit représenté. Non. Le vrai problème, la vérité interdite, ce que tout le monde murmure et n'ose dire tout haut, c'est que cet homme, quelque part, est fou. Il a des pulsions autocratiques. Et tout est affaire de psychologie. Tu n'avais pas compris ? Nous recevons notre voisin, le vieux G, le dernier habitant du hameau qui y soit né. Il en connaît le cadastre par cœur. Il regarde tout dans le jardin à la vitesse de sa canne. Halte devant chaque plante, identification, santé, ce qui y fut avant. Il explore toute la maison, nous montre dans quel coin de mur sa mère lui a donné naissance, où on mettait le foin, une grande pièce maintenant. Nulle mélancolie, plutôt une euphorie, un contentement d'arpenteur, d'un qui sait. Nous approuvons ces paroles, non en elles-mêmes, mais comme grande longueur de temps parcouru. Déjeuner affectueux, impossible de lui faire raconter sa guerre d'Algérie, il reste vague, général. Samedi 28 avril 2007. On prend les amis S. et S à la gare, et on va ensemble à la fabuloserie. Intense lumière de printemps. On tourne autour des étangs, on arrive au manège de Petit Pierre, le monde d'après-guerre. Ce vacher utilisa lui aussi, comme son monde environnant, les rouages et l'énergie électrique. Il mit en ronde vélos, vaches, avions, tous en tôle, en membranes ferreuses taillées et assemblées. On regarde cela comme si on était en 1950 et qu'on entrait dans une nouvelle époque. C'est un futur passé, gardé futur jusqu'à nous. Le grincement des poulies, des chaînes, métal contre métal est un chant, celui de ce temps continué. C'était donc un extrait d'un des chapitres du dernier livre de Laurent Grisel, Je connais bien votre patron. Le titre de ce journal, donc, c'est Journal de la crise 2006-2007-2008, d'avant et d'après. C'est le tome 2 et le livre est disponible aux éditions publi.net. C'est un ouvrage qui est distribué par Hachette Livre. Voilà donc une bonne idée de cadeau à mettre au pied du sapin de Noël ou de la crèche. En tout cas, Laurent Grisel explore ces années noires de crise planétaire et se confrontant aux sources les plus diverses, presse internationale, agences financières, fils d'information des associations de solidarité, blogs, publications de chercheurs indépendants, Laurent Grisel trie et décrypte le flot continu de nouvelles désorientantes. C'est un ouvrage d'une clarté remarquable et cette crise de 2007, c'est un passé qui continue à nous parler au présent. Mercredi prochain, 21 décembre, devant ce même micro, j'aurai l'immense plaisir d'accueillir un écrivain québécois qui séjourne jusqu'à fin janvier prochain en France, très précisément dans la Nièvre, à Clamecy. C'est Christian Bilodeau qui sera invité à nous parler de son dernier roman, Mémoire à la mer, un livre au sujet grave puisque le héros est atteint d'Alzheimer, une terrible maladie qui devrait, selon des statistiques, toucher plus de 34 millions d'humains en 2025. Mais ce roman est aussi un hymne à la mémoire, à l'énergie que déploie un homme lorsqu'il se sent au bord du naufrage. C'est aussi un chant d'amour, une célébration de la beauté et un éloge de l'écriture salvatrice. C'est mercredi 21 décembre prochain, toujours à 21h sur Radion et à bord de Wagon Livre, dont vous retrouvez, je vous le rappelle, absolument toutes les émissions sur yannickpetit.fr. Merci en tout cas de nous avoir ce soir choisi et d'avoir passé le début de votre soirée avec nous. Je vous en remercie. À très bientôt. Au revoir et à la semaine prochaine. Thank you.